Notre Père, nous te remercions de nous permettre d'étudier ta parole dans un cadre si merveilleux, dans cette belle nature qui est sortie de tes mains, car c'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Tu es l'auteur de toutes choses. Mais tu n'as pas seulement créé cette belle nature. Tu as appelé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Et dans ton amour, malgré le mauvais choix que nous avons fait de notre liberté, tu as voulu que ton dessein premier soit quand même accompli, et tu as opéré cette œuvre merveilleuse de la rédemption. Pas seulement la création, où tu appelais tout à la vie, mais la rédemption, où tu restaurais toutes choses, et cela pour le bien suprême de nos âmes. Nous voulons te demander que nous puissions discerner dans la lecture de ta parole cette rédemption et apprendre à connaître sous les figures de l'Ancien Testament celui qui est le Rédempteur, celui qui seul avait le droit et le pouvoir du rachat pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, je pense que petit à petit, ces vérités profondes vous deviendront familières. Hier, avec le chapitre 2, nous avons vu le travail de Ruth pour sa belle-mère, en quelque sorte. Ses bonnes œuvres, les œuvres faites par amour pour celle à qui elle s'était profondément attachée. Et hier soir, nous avons essayé de compter les bienfaits que Boaz a donné à Ruth dès sa première rencontre avec cette jeune Moabite. Et je vous disais que je ne pouvais que penser à ce psaume 103e que vous connaissez certainement par cœur et qui commence par ces paroles « Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. » C'est certainement ce qu'a éprouvé Ruth quand elle a été mise en contact avec ce personnage inconnu, mais qui était le propriétaire du champ où elle glanait. Et qu'elle l'a vu, l'a regardé, puis lui parler avec tant d'amour, l'appeler sa fille. Et je pense que vous y avez songé à cette accumulation de bienfaits. Quand on rencontre le Seigneur, on reçoit de sa plénitude quoi ? Grâce sur grâce. C'est ça qu'il est dit. De sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce. Alors, qui est ce Boaz? Que représente-t-il? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Il a tous les caractères du Seigneur. Il ne se contente pas de nous donner une grâce, mais il ajoute une autre grâce. Et c'est vraiment ce qu'a connu Ruth dans une seule journée. C'était grâce sur grâce. Et ce matin, je me disais encore, et je voudrais que vous puissiez méditer cela après le camp, parce que pour moi, le camp, ben, c'est un moment d'intense communion avec le Seigneur, mais je compte surtout après le camp, l'après-camp, quand vous serez de nouveau dans vos demeures, vous allez repasser dans vos cœurs ces choses, comme le faisait Marie. C'était le secret de la mère de notre Seigneur. Elle repassait tout ce qu'elle avait entendu dans son cœur. Elle gardait cela dans son cœur. Alors, quand on garde cela dans son cœur, eh bien, nos pensées sont influencées par ce qu'il y a dans nos cœurs. Jésus l'a dit clairement, n'est-ce pas ? C'est ce qui vient du cœur qui souille un homme. C'est pas ce qui entre, le manger et le boire. Maintenant, on a fait une religion du manger et du boire, hein, pour ainsi dire. Je suis pas contre une bonne alimentation. Vous vous rendez bien compte que ici, on cherche à vous donner une alimentation qui soit convenable et suffisante. Mais nous n'en faisons pas un culte, nous n'en faisons pas une religion. Même si j'ai dit en riant, parce que je l'ai entendu en 1949, dans un camp universitaire, une jeune femme, elle était professeure, mais c'était tellement mauvais ce qu'on mangeait là, à Saint-Brevin-l'Océan, qu'elle disait, vous savez, quand le diable est dans l'estomac, le Seigneur a de la peine d'entrer dans le cœur. Et je trouvais que c'était vrai. Parce que quand on est mal nourri, et qu'on arrive à table, et puis que c'est de la colle, que ça a de la peine à descendre, non mais c'est vrai, c'est jeune. Même pour finir, j'ai dû prendre ça en main, et j'allais acheter moi-même l'alimentation, parce que celui qui devait s'occuper de ça, eh bien, n'était pas capable. Et vous savez, c'est pas qu'on veut prendre la place des autres, mais quand on voit, on avait 60 ou 80 jeunes, et qui allait se baigner à l'océan, il faut qu'il soit nourri, n'est-ce pas ? Simplement un peu de pommes de terre en robe des champs, et puis un petit morceau de fromage, et puis des gaufrettes comme dessert. Tranquille, gaufrettes. C'est pas ça qui nourrit des jeunes de 18-20 ans. Il fallait autre chose. Alors nous avions fait une révolution du palais, et puis tôt le matin, avec deux jeunes filles étudiantes, on allait acheter nous-mêmes les affaires. Hein. Et c'est cela qui m'a orienté, vous voyez, c'est vieux, c'est en 40 ans, en me disant, il faudrait qu'on puisse avoir aussi la responsabilité matérielle. Hein. Parce que, bon, moi, j'étais pas concerné par la responsabilité matérielle, il y en avait d'autres qui devaient faire ça. Mais moi, j'avais la responsabilité spirituelle. Mais sur les programmes, il y avait mon nom. Alors les parents connaissent, et puis ils disent, alors voilà, dans le camp de M. Racine, c'était pas mon camp, ça n'a jamais été mon camp. C'est pour ça qu'on a appelé ça camp Mahanaïm, après, n'est-ce pas ? C'est le camp de Dieu, mais nous voulons représenter notre Dieu, et notre Dieu nous a fait un corps aussi, un estomac, pour que nous puissions nous nourrir, et regardez, c'est lui qui avait fait le menu en Éden pour Adam et Ève. Tant qu'ils ne travaillaient pas dur, eh bien, c'était le régime végétarien. C'est très bon, le régime végétarien. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, péniblement, et puis après, quand il fut hors d'Éden, Dieu a ajouté le régime carné. Alors ne venez pas me dire que vous êtes plus spirituel parce que vous ne mangez pas de la viande. Vous êtes peut-être plus spirituel parce que vous avez moins besoin de ces choses. Mais regardez, ne parlez pas de spiritualité sur cette question-là. Bien sûr, le royaume de Dieu n'est pas manger et boire. Mais regardez, vous voulez reprendre Dieu, pourquoi est-ce que Dieu donnait de la viande à Élie et qu'il lui envoyait des corbeaux pour la porter ? Matin et soir, le pauvre Élie, il en avait besoin. Alors, n'isolons pas un texte. Si cela vous convient d'avoir le régime végétarien, continuez. Mais n'obligez pas les autres à faire la même chose. Voyez-vous, quand on trouve le Christ, c'est vraiment l'équilibre. Mais qu'est-ce qu'on disait de lui ? ce mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pêcheurs. Il s'asseyait à leur table. Il ne faisait pas la petite bouche. Il n'a pas nécessairement mangé des sauterelles, le Seigneur Jésus. Jean pouvait manger des sauterelles. Mais c'était peut-être très bon pour lui. Alors, chacun a sa vocation. Ne nous jugeons pas les uns des autres. Alors nous comptons les bienfaits du Seigneur. Et Ruth, dans ce chapitre 2, nous a montré qu'elle était consciente que sa belle-mère avait aussi un estomac, puis qu'il fallait la nourrir, que ce n'était pas simplement sa gentillesse, son amour, de l'avoir accompagnée qui était nécessaire, mais maintenant qu'elles étaient arrivées à Bethléem, sans bien, sans rien, il fallait qu'elle se mette au travail. Et c'est ce qu'elle a fait, en prenant la position la plus humble. Et alors, elle est entrée dans le champ de Boz, et là, elle a vu vraiment les grâces du Seigneur surabonder à son égard. Et ce que je pensais ce matin, je reviens à ce point, c'est au moment du repas de midi. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, quand le repas arrive, elle doit penser, moi, on ne m'invitera pas à aller m'asseoir à la table de Boz. Et pourtant, elle regarde et elle voit que tous les ouvriers, les servantes, sont appelés à venir s'asseoir à la table de Boz. Boz mange avec ses ouvriers. C'est pas merveilleux? Eh bien, c'est encore une image du Seigneur. Et qui nous invite à sa table. Et je pensais à ce point qu'on entend si souvent, il y a peu de gens qui s'en vont vraiment à la table du Seigneur. Et puis, beaucoup de serviteurs de Dieu disent, il ne faut pas la prendre trop souvent la scène. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça dans l'Écriture. Parce que un vrai culte complet, eh bien, c'est un culte où il y a aussi la scène. Je ne veux pas juger. Mais on dit non, on risque de s'habituer, etc. Et puis, alors on le fait le moins souvent possible. Dans certaines églises, c'est 3 fois par année. Maintenant, on revient un petit peu, alors c'est 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Mais ça ne change absolument rien à l'affaire. Au sujet de la dignité, est-ce que, si c'est tous les 15 jours, est-ce que ce dimanche où il y a la Sainte Cène, est-ce que vous êtes en état de la prendre? Mieux que le dimanche précédent? Voyez-vous, c'est chaque jour qu'on doit vivre 2 fois. Et je pensais vraiment que ce fait que tant de gens se trouvent indignes, c'est qu'il s'attribue quelque chose. Et ça dénote, ce sentiment d'indignité, ça dénote qu'ils n'ont pas saisi vraiment que tout est de Dieu. Et que si vous attendez de vous sentir digne, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans l'orgueil. Vous pensez qu'il peut se produire quelque chose vraiment en vous qui vous fasse penser que vous êtes digne. Alors, cette fois, alors je prendrai la scène. Tout est de Dieu dans tout ce que nous avons lu. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Rien, elle a glané. Mais elle ne s'est pas avancée d'elle-même. Elle a été dépendante. Puis, certainement qu'elle s'est dit, moi, une étrangère, je n'ai pas ma place à la table de Boz. Mais elle voit les servantes. Elle est déjà saisie de voir que, au fond, les servantes ont la même place que les grands moissonneurs. Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez. À la table du Seigneur, vous avez aussi bien votre place que les grands moissonneurs. Ceux dont vous vous dites, ah oui, lui, il est digne de pouvoir prendre la scène. Personne n'est digne. Car nous sommes tous des pécheurs, des créatures pécheresses. Nous avons tous un corps de chair et nous savons que jusqu'au bout, le péché habite dans la chair. Mais nous nous considérons comme mort au péché. Et si nous nous sommes laissés surprendre, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous jugeons nous-mêmes. Mais ce n'est pas au dernier moment, ce n'est pas une fois qu'on est dans la salle qu'on va se juger. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit, quand je regarde les gens, quand c'est dans certaines églises où on se lève pour s'avancer, on dirait des condamnés à mort qui vont au supplice. N'est-ce pas? Ils ont une longue figure, puis ils vont communier. Hein? Un cortège de condamnés à mort. C'est quand même pas ça. Alors que le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. À qui doit-on penser quand on prend la scène? À ce que nous sommes depuis notre conversion? À toutes les bonnes œuvres que nous avons faites? Mais non, nous sommes dans la grâce. Nous nous jugeons nous-mêmes. Mais j'ai entendu même un pasteur, c'était à Lausanne il y a peu de temps, trois ans, qui disait, Seigneur, nous apportons nos péchés à la table du Seigneur. C'est ça que vous apportez, vos péchés à la table du Seigneur. C'est pas à la table du Seigneur que nos péchés ont été expiés. Ils ont été expiés où? À la croix du calvaire. Et c'est ça la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Eh bien, croyez que l'œuvre du Christ est totale et parfaite. Ne regardez plus à vos sentiments. On a fait toute une retraite pendant une année, trois retraites justement, les faits divins ou nos sentiments. Est-ce que nous sommes guidés par nos sentiments ou bien est-ce que nous croyons les faits divins? Oui ou non, Jésus a-t-il été crucifié? Pourquoi a-t-il été crucifié? Pour nos péchés. Pourquoi est-il mort? Pour nos péchés, pour nous racheter. Est-ce que c'est fait? Est-ce que devant Dieu c'est fait? Est-ce que Dieu considère comme la question du péché réglée à votre égard? Ça ne veut pas dire que vous expérimentez toutes les victoires, comprenez-vous? Mais c'est fait et Dieu vous voit maintenant dans les perfections du Christ, comprenez-vous? C'est ça qui est merveilleux. Votre vrai portrait, ce n'est pas celui que vous voyez dans votre miroir ou en vous examinant vous-même, parce que moi, si je m'examine moi-même, je finis où? Au suicide. Au découragement, n'est-ce pas? Et la dépression peut me conduire jusque-là. On n'en peut plus de soi-même. Mais vous voyez, avec toute cette psychologie, tout ce qu'on a fait entrer aussi dans l'Église, eh bien, on est toujours centré sur soi-même. Il faut commencer par s'aimer soi-même. Et puis, vous avez tout le reste. Alors que Jésus a dit, renonce à toi-même. Alors, renonçant à moi-même, eh bien, de quelle vie est-ce que je vais vivre? De la vie de Christ. Alors je m'empare de Christ et de penser que c'est Christ qui est ma perfection, qui est ma sainteté. Moi je n'ai pas de sainteté en moi-même, mais lui est ma sainteté. Et Dieu me voit à travers les perfections de Christ. Il se tient pour moi, debout devant la face de Dieu. Alors je m'oublie moi-même. Comme Moïse, j'aime souvent rappeler ça, Moïse, parce qu'il avait parlé avec lui, avec le Seigneur, quand il descendait de la montagne, son visage rayonnait. Eh bien, si vous avez eu ce moment avec le Seigneur, malgré toutes les fautes de la semaine, malgré les faux pas, on s'en est humilié. Si on a blessé quelqu'un, on cherche justement à lui demander pardon, à faire le premier pas. C'est pas que moi, j'ai raison sur lui, mais c'est que le Seigneur ait raison sur moi et sur lui. Et quand on fait le premier pas, eh bien, on entasse des charbons ardents sur la tête de l'autre. Et il y a des réconciliations qui se font dans l'immédiat. Au lieu de dire, oh, mais moi, non, je ne sais pas régler, alors je ne peux pas prendre la scène, alors je ne m'en vais pas à l'église. C'est pas cela. Le Seigneur nous a donné des moyens pour qu'on soit toujours heureux et toujours en règle. Bien sûr que, on l'a dit ce matin, David, tant qu'il n'avait pas confessé son péché, il était malheureux, lisez le psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os ont dépéri. Jusqu'à ce qu'il dise, j'ai dit, je confesserai mon péché, ma transgression à l'Éternel, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché, mais il a confessé son péché. Et voyez-vous, c'est pas là un petit moment où on se juge soi-même, comme il l'est dit dans le chapitre 11 des Corinthiens, mais on s'est préparé avant, et puis on va pour louer le Seigneur. Et on a déjà de la louange en pensant à sa miséricorde. Vous avez remarqué que Naomi, quand elle apprend la bonté de Boaz pour Ruth, pense à la miséricorde que Dieu a eue pour ses défunts. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Elle dit, il a été miséricordieux pour les morts. Et il est miséricordieux pour les vivants. Alors, puissions-nous comprendre qu'à la table du Seigneur, personne n'a le droit d'y aller, sinon ceux qui sont invités. Alors oui ou non, est-ce qu'il vous invite? Si vous êtes enraché, faites ceci en mémoire de moi. C'est entre vous et le Seigneur que ça se passe. Comprenez-vous? Faites ceci en mémoire de moi. C'est lui qui nous invite. C'est la table du Seigneur, c'est pas la table des hommes. C'est pas la table d'une église particulière. Si, alors, c'est la table d'une église, il faut être absolument en communion avec toutes les idées de cette église. C'est pas ça, il faut être en communion avec le Seigneur. Et si c'est vraiment un enfant de Dieu, eh bien, nous le reconnaissons comme notre frère. On n'a pas tous le même degré de connaissance, mais notre communion ne repose pas sur une uniformité de vue ecclésiastique, mais sur l'identité de vie que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Et puis nous nous jugeons de tout ce qui pourrait ne pas être à la gloire de Dieu. La foi est là pour que nous puissions plaire au Seigneur. Je m'empare de ses promesses. Seigneur, tu as fait une œuvre tellement merveilleuse que tu es digne que je me souvienne de toi. Et alors, je m'en vais là, à la table du Seigneur. Et je ne mange pas simplement un morceau de pain et bois une gorgée de vin, mais je comprends que par-delà ces éléments, j'ai réellement communion au corps de Christ qui s'est donné pour moi et que j'ai communion à son sang qui devient ma vie. Nous n'avons plus un Christ extérieur à notre vie, nous avons un Christ intérieur. C'est cela qui compte. Eh bien, vous pouvez méditer sur ces choses et je trouve que c'est merveilleux de voir qu'il y a en germe toutes ces vérités. C'est Boaz qui dit à Ruth, approche-toi. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? On revient un peu en arrière, mais ça ne fait rien. Approche-toi. Il y a le moment du repas. Au moment du repas. Verset 14. Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Moi, je trouve ça merveilleux. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On est ensemble. Et alors, quand elle a raconté tout cela à sa belle-mère. Sa belle-mère n'entend pas que les paroles de Ruth, mais qu'est-ce qu'elle voit? Ce que Ruth a rapporté, c'est clair. Elle a rapporté une moisson incroyable. Vous rendez-vous compte? 30 kilos de grain d'une journée? Eh bien, Dieu y a pourvu. Puis quand elle apprend encore, ce que Ruth lui dit, il m'a encore dit ceci. J'aime beaucoup cela, n'est-ce pas? Reste dans mon champ, hein, jusqu'à la fin de la moisson. Ça fait au moins encore plus d'un mois. Eh bien, alors Naomi, elle approuve ce que Boaz a dit, mais elle a eu comme une lumière intérieure qui l'a éclairée. Mais elle n'a pas tout dit. Ce qu'elle pensait à Ruth. Quand au verset 21, Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ça, Ruth pouvait comprendre simplement qu'elle était protégée, hein, et qu'il ne lui arriverait rien si elle restait dans son... Mais pour Ruth, il y avait déjà autre chose qui commençait à poindre en elle, et c'est ce qu'on va voir au chapitre 3. Et vous avez ainsi la clé un peu du chapitre 3. Comment ? Oui, Noémie, pardon. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Donc, Noémie approuve tout ce que Boaz a dit. Elle resta donc avec les servantes de Boaz. Vous voyez qu'elle est obéissante. Elle fait ce qu'on lui dit pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froments. Ils ont donc eu le temps de se connaître. Boaz a pu voir Ruth tous les jours. Et elle demeurait avec sa belle-mère. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Alors nous lisons maintenant le chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Jusque-là, c'est Ruth qui a assuré la compagnie, cette amitié pour sa belle-mère et qui a travaillé pour elle. C'est Ruth qui a fait beaucoup de choses pour Noémie. Mais maintenant, Naomi se rend compte que c'est elle qui doit faire quelque chose pour Ruth, parce qu'elle l'a quand même vue chargée et fatiguée par un tel travail. Alors elle pense, c'est moi qui dois agir. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Ça, Ruth l'apprend par sa belle-mère, ce qu'elle ne savait pas. Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Est-ce que vous avez déjà une pensée, là? « Je ferai tout ce que tu as dit. » Qu'est-ce que Marie, à Cana, a dit au serviteur? Faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, on voit en Ruth une disposition toute semblable d'obéir. C'est cela qui la caractérise. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Elle n'a pas commencé à lui poser des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela. Elle fait confiance. Est perdue dans ce que lui a dit sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement et découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Un frisson. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ?» Elle répondit, « Je suis Ruth, qu'il la prenne pour une. » Une fille prête à se prostituer. Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Alors vous allez, on va reprendre ça, mais quel était le premier trait dont Boaz parle? C'est l'amour qu'elle avait eu pour sa belle-mère, qui était parente par mariage d'Élimélec. Et il avait été impressionné par ce premier trait, l'amour de cette jeune femme pour sa belle-mère. Eh bien, ce dernier trait, donc d'aller se coucher à ses pieds, il estime que c'est encore plus, et vous allez comprendre pourquoi, car tu n'as pas recherché les jeunes gens. Parce qu'il était déjà âgé, hein. Tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. Elle aurait pu en rencontrer, puisqu'il y en avait dans la moisson. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ce n'est pas ce que Ruth a fait qui enlève à Boaz l'estime totale qu'il a pour elle. Verset 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, qu'est-ce qu'il dit? À la bonne heure. Vous voyez la soumission totale de son cœur. Si tu dois appartenir à un autre, je me soumets. Qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Et on s'arrête là, reste couché jusqu'au matin. Alors, je vous disais que Naomi avait été émerveillée en entendant Ruth lui raconter sa première journée de travail et en considérant tout ce qu'elle avait rapporté du champ de Boaz. Elle constate que Ruth a pensé à pourvoir aux besoins de sa belle-mère. Et maintenant, comme nous le disions, c'est Naomi qui songe au repos que Ruth devrait avoir dans le pays d'Israël. Si elle pouvait se marier, elle aurait du repos. Et se marier avec qui? Un homme puissant et riche. Mais évidemment, Boaz n'est plus un jeune homme. C'est un homme déjà âgé, mais ça ne compte pas dans ces affaires-là. S'il y a réellement l'amour et si c'est dans la volonté du Seigneur. À quoi a pensé Naomi? Elle a pensé à ce droit de rachat. C'était une vieille coutume en Israël. La loi voulait que lorsqu'un Israélite vendait sa propriété, on ne pouvait pas vendre le fond d'une propriété, ça restait inaliénable. Mais ce qu'on vendait, c'était toute la série de récoltes qui devait se succéder jusqu'à l'année du jubilé qui revenait tous les 50 ans. Chaque personne en Israël avait reçu une portion dont il pouvait jouir quant aux récoltes. C'était sa portion. Mais tous les 50 ans, tout revenait à Israël et il y avait de nouveau une répartition. Mais si pour une raison ou une autre, on avait dû vendre sa propriété et que une circonstance permettait de la racheter, l'homme qui avait vendu avait le droit de rachat. Mais s'il était mort, c'était un proche parent qui pouvait racheter. Habituellement, comme on l'a vu, c'était le beau-frère. Mais en rachetant, il devait prendre la veuve. Ça, c'était la loi. Et évidemment, ça ne pouvait pas plaire, peut-être. Mais Naomi, elle pense à cela, si Boaz a été si aimable avec Ruth, c'est qu'il y a peut-être un espoir. Et il faudrait qu'on lui souligne que on s'attend quand même peut-être à lui, puisqu'il a le droit de rachat. Mais Ruth n'ignore pas qu'il y a peut-être d'autres parents qui pourraient intervenir. Parce que Boaz lui-même, étant un homme âgé, est-ce qu'il va faire le premier pas vers lui? Qu'est-ce qu'on dira de lui? Il court après une jeune fille. C'est bien compris, hein? L'homme âgé ne fera pas la demande en mariage, c'est pas vrai. Il est assez sage pour se dire, moi, mon temps, il est à peu près fini. Alors, on ne peut pas compter sur Boaz pour demander Ruth en mariage. Et Naomi, qui est revenue au Seigneur, qui repense à toutes ces lois antiques que nous pouvons revoir, et j'en reparlerai ce soir pour ceux qui ne sont pas là, pour que ceux qui sont à la cuisine bénéficier aussi de cet enseignement. Alors, que fait Naomi? Je trouve que c'est très beau. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Donc ça, c'est le premier verset. Quel est le but dans tout cela? C'est que Ruth soit heureuse et qu'elle ait du repos. Elle avait déjà pensé à ça quand elle était au pays de Moab. Retournez chez vous, vous pourrez vous marier et être heureuse dans la maison de votre mari. Mais elle pensait que c'était plus possible en Israël. Et puis voilà tout à coup que la possibilité est manifestée à cette chère Naomi. Alors qu'est-ce qu'elle lui donne comme conseil? Maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, elle insiste bien, hein, elle n'a pas couru avec les jeunes gens, elle a été avec les servantes. N'est-il pas notre parent? Elle lui montre bien que c'est un parent et que c'est lui qui a droit de rachat. Et comme on arrive à la fin de la moisson, voici, il doit vanner cette nuit les orges dans son air. On vannait dans ce temps-là, dans l'air qui était habituellement sur une hauteur, et puis le vent, hein, une fois qu'on battait, le vent enlevait l'enveloppe. Et alors, on vannait à la fin de la moisson. Et puis, à ce moment-là, le propriétaire qui était là pour ces derniers moments, il couchait dans l'air, simplement. Ça, c'était une coutume le propriétaire était avec ses moissonneurs, on finissait la moisson, on vannait, on battait le grain, et puis on se couchait là, on ne retournait pas chez soi à Bethléem. Ça, c'était une coutume. Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Alors, verset 3. Lave-toi. Pourquoi me laver? Oint-toi. Pourquoi moindre? Elle n'a pas posé de question. On n'a pas posé de question quand on est conseillé par le Seigneur. Et elle sait très bien que celle qui lui a parlé du Dieu d'Israël, c'est Naomi, et que ce qu'elle veut pour elle, c'est bien. Alors elle ne se pose pas de question. Et puis, se laver, ben, c'est quelque chose de normal. Le Seigneur lui-même a dit qu'il fallait se laver. On a dû le dire quelques fois au camp. Et même quand on jeûne, il ne faut pas avoir un visage défait ou mal rasé. Lave-toi, oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Donc c'est quelque chose d'absolument discret. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Donc, une position tout à fait au pied du maître. Elle ne lui a pas dit couche-toi à côté de Boaz. C'est pas vrai. Mais couche-toi à tes pieds. On peut méditer longuement là-dessus. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Vous voyez, elle n'en dit pas plus. C'est lui qui te dira ce que tu dois faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Vous rendez-vous compte que c'est vraiment le livre de la foi. Elle prend au mot ce que sa belle-mère dit, elle croit sa belle-mère, et la foi dans la parole de sa belle-mère. La foi ne demande pas d'explication. On croit. Je ferai tout ce que tu as dit. Et la foi est une obéissance. Chaque mot dans ce livre de Ruth nous montre l'obéissance, la soumission et l'obéissance. Alors elle descendit à l'air, elle fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Ils avaient terminé, on est satisfait du travail, alors on est dans la joie. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds, elle lève simplement la couverture, elle se couche là à ses pieds. Et qu'est-ce qui se passe au verset 8? Il aurait pu dormir jusqu'au matin. Et c'est pas Ruth qui l'a réveillé. Mais quand le Seigneur est là, il nous réveille à l'heure qu'il veut. Il réveille notre oreille pour qu'on écoute. Puis, il peut nous réveiller par une frayeur. Tout est de lui. Alors, il se penche et voici une femme qui était couchée à ses pieds. Forcément, il est étonné. Il dit, qui es-tu? Vous vous souvenez quand il est entré dans son champ et qu'il a posé la question, Boaz, au surveillant des moissonneurs, il a dit, à qui est cette jeune femme? Puis maintenant, ça devient encore plus précis. Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Elle lui rappelle simplement qu'il a le droit de rachat. Mais est-ce qu'il voudra la racheter? Comment est-ce qu'il interprétera sa démarche? Tout ce qu'il doit savoir, c'est que Ruth aimerait bien qu'il exerce son droit de rachat. Alors il est bouleversé, il dit, « Sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. » Il est bouleversé en pensant que peut-être c'est lui qui pourrait devenir le mari de Ruth. Alors ça, c'est un cadeau du ciel. Une jeune femme pour ce vieillard. C'est pas le vieillard qui a voulu prendre une jeune femme, mais c'est Dieu qui lui donne une jeune femme. Alors pourquoi est-ce que nous serions là à contester? Tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. Vous voyez que le mariage, dans l'Écriture, qui est-ce qui le préside vraiment? C'est Dieu. On a toute espèce d'idées. Mais quand on dépend de Dieu, eh bien, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et vous connaissez le tableau d'une femme vertueuse. Il est où? Dans les Proverbes, au chapitre 31. Alors vous avez là le tableau de la femme vertueuse. Et un homme comme Boaz, si bien avec ses ouvriers, ne doit pas avoir une femme qui l'empoisonne. Et c'est formidable, il va trouver là une aide qui lui correspond, qui va l'aider. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut la trouver? Mais c'est Dieu qui la lui amène. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ils ne sont pas encore mariés, mais il a confiance en Ruth. Et il sait que Ruth ne fera rien pour précipiter les choses. Pourtant, il est un homme, elle est une femme, mais ils savent rester dans la pureté. Le cœur de son mari a confiance en elle. Voyez-vous, maintenant, il n'y a pour ainsi dire plus de fiançailles. Mais moi, j'y crois encore aux fiançailles. Et justement, aux non-relations sexuelles avant le mariage. Parce que cela donne une preuve de la maîtrise de l'homme et aussi de la vertu de la femme. Et cela est un gage pour le mariage ou dans la vie conjugale. Il peut se passer tant de choses qu'on ne peut plus avoir nécessairement des relations sexuelles. Et alors, à cause de cela, alors on se sépare, on trouve une autre femme. N'est pas cela. Il y a une éducation de la volonté, et puis on en fait un sujet de prière. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien, non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, c'est-à-dire au gouvernement de la ville, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève, elle lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Et on peut dire que Ruth a incarné ce texte. Vous avez là le portrait de ce que sera Ruth dans son foyer. Verset 12. Bon, j'ai tout disposé. Il est même bouleversé. Lui qui a usé tant de grâce, eh bien, c'est une grâce qui lui est faite. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat. Mais il existe un autre plus proche que moi. Alors, méditez vous-même. On en parlera ce soir. Il est possible qu'un proche parent veuille racheter Ruth. Alors si ça ne marche pas, s'il ne m'épouse pas, qu'est-ce que je devrais faire pour que cet homme m'épouse? Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour obliger cet homme de m'épouser? Pas de coucher cette nuit avec lui. Et si je couche avec lui cette nuit, ben, je le tiens. Non. Si ça ne doit pas être, ça ne sera pas. Il y a soumission des deux côtés. C'est quand même formidable. L'enseignement actuel de tout cela. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, que je pourrais être ton mari, mais il en existe un autre plus proche que moi. Il veut se soumettre à la loi. Passe ici la nuit. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi l'Éternel et vivant. Reste couché jusqu'au matin. Eh bien, c'est ce que va faire Ruth. On va peut-être, juste pour terminer, lire ces versets 14 que nous étudierons ce soir. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Il ne faut pas scandaliser. Parce qu'est-ce qu'on pourrait croire? Qu'elle l'a séduit. Mais elle n'est pas une séductrice. Bose dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'être. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi. » Et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. C'était une charge un peu moins lourde que la veille, hein, qu'elle avait 30 kilos à porter. Alors disons que c'était 22 kilos. Mais il veut qu'elle rentre avec une offrande. Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. C'est beau quand on peut tout dire. Et elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'or en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Il a pensé à la belle-mère. Alors Naomi lui dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Il faut rester dans la paix. Comment est-ce que ça va tourner? Ben, c'est là la foi. Je reste dans la confiance. Mais la confiance, qui dit que si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Si ça doit se faire, c'est la volonté du Seigneur. Alors, on est en paix quand on a remis tous nos désirs au Seigneur. Vous connaissez un psaume qui le dit, cela? Psaume 37e, verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Cet homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Dans une conférence qui avait lieu en Angleterre, à Keswick, conférence de réveil faite pour les serviteurs de Dieu, il y a eu un témoignage qui était assez bouleversant d'une femme qui disait que elle était tellement sûre d'être exaucée qu'elle n'osait plus prier. Parce que ça arrivait tellement vite. Elle était bouleversée parce qu'elle disait vraiment, avant qu'il crie, je répondrai, pendant qu'il parle, j'exaucerai. Quand je m'abandonne au Seigneur, ça va tellement vite que j'en ai presque peur. Alors je ne demande presque plus rien. Et c'est vrai, plus on avance dans la vie chrétienne, moins on a de demandes pour soi-même, plus on a de demandes pour les autres. Mais pour soi-même, on a des actions de grâce. Parce que le Seigneur bénit. Alors voulons-nous avoir un moment de prière maintenant? Nous puissions avancer avec ce que nous connaissons déjà de ta parole, de ta volonté, et que nous ne soyons pas inquiets pour les choses que nous ignorons encore. Car à son heure, tu nous les révéleras comme Naomi avait compris la chose et qu'elle pouvait dire à Ruth, lui te dira.